Le masque et la plume. Un nouvel épisode du masque en tournée à Poitiers face au public du TAP, le théâtre auditorium. Merci beaucoup. Le théâtre auditorium, donc, qui nous accueille pour deux émissions. Les critiques littéraires en tournée sur cette scène nationale sont Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Arnaud Vivian de la revue en ligne Regard, Patricia Martin de France Inter, que vous retrouvez pour l'heure philo le vendredi à 20h et le dimanche à 14h, et Philippe Trétiac, auteur. Au programme du jour, deux premiers romans, Combat de filles de l'américaine Rita Bullwinkle et Il pleut sur la parade de Lucie-Anne Belgi, figurent aussi Les ombres du monde, fresque historique signée Michel Bussy, la fiction documentée de Guillaume Poy intitulée Perpétuité qui se déroule dans une maison d'arrêt, et enfin une icône moustachue, je veux parler d'Astérix dont les nouvelles aventures ont récemment paru. Vous allez le programme et tous les présents, alors bonjour. Bienvenue, voici le masque. Un point langage dans le courrier de la semaine, puisque plusieurs d'entre vous se plaignent, voire s'attristent du vocabulaire employé au cours du dernier débat littéraire. Anglicisme, abondance de superlatifs et parfois grossièreté. Dominique de Paris ou Florence de Mérignac soulignent que la critique, même négative, n'exclut pas l'élégance. Par ailleurs, le livre qui vous a fait réagir est celui de l'Irlandais John Boyne, lauréat de deux prix cet automne, le prix du roman Fnac et celui du Fémina étranger pour Les éléments. Ce roman qui réunit quatre histoires où il est question de violences sexuelles avait divisé la tribune et Juliette Milon de Lyon témoigne « Mon degré de saturation fut atteint avec le personnage d'une femme médecin pédophile. Je n'ai aucune envie d'être dans la tête d'un tel personnage. » À une époque où l'on s'intéresse enfin aux victimes, le point de vue de John Boyne et ses analyses psychologiques simplistes me semblent déplacés. « Tout sonne faux », renchérit Valérie Sylvain de Bidart. « Le livre est écrit avec les pieds et des pieds moches. » Vous avez aimé « Un frère » de David Thomas, autofiction où l'auteur raconte son frère atteint de schizophrénie. Sur Instagram, Lucie écrit « Sentir l'humilité d'un auteur, ça n'est pas si fréquent. Un frère est un livre qui raconte la nécessité incontournable d'écrire autant que la difficulté à trouver les mots. » Julie de Vincennes estime que notre enthousiasme n'a pas été à la hauteur. Oui, on pleure à la lecture, écrit-elle, mais on rit aussi, car on retrouve l'humour de David Thomas, alors auditrice, auditeur, « N'ayez pas peur », un frère de David Thomas apparu chez l'Olivier. Enfin, sur Instagram, Jonathan m'écrit « Un livre de Freda McFadden au masque, c'était un passage à la sulfateuse attendu, mais drôle. En ces temps où la publique communication phagocyte tout et où toute critique d'une œuvre ultra populaire est soupçonnée de snobisme, ça m'a fait plaisir. Merci de continuer à penser que les chiffres de vente ne sont pas un gage de qualité, contrairement à ce que certains responsables politiques prétendent. » Jonathan de Mérignac. Et je choisis de commencer avec un premier roman signé par une nouvelle voix de la littérature américaine. Elle s'appelle Rita Bullwinkle et son livre s'intitule « Combat de filles ». Nous sommes à Reno, ville moyenne du Nevada, où se déroule le tournoi des filles d'Amérique boxeuses de moins de 18 ans. Rita Bullwinkle nous fait entrer dans chacun des matchs de ce tournoi, dont le récit avance par fragments. On suit les combats presque plan par plan, et le portrait de chacune des boxeuses se dessine. Ça va vite, chaque match dure 8 rounds de 2 minutes, où se mêlent présent, passé et futur. Le présent des coups donnés et reçus, leur passé qui surgit par flash, et la narratrice annonce leur futur. L'une mourra jeune, une autre deviendra comédienne, etc. Avant d'être autrice, enseignante et éditrice, Rita Bullwinkle fut championne de water-polo et ce premier roman, Combat de filles, fut en lice pour le prix Pulitzer de la fiction. Elisabeth.
Oui, c'est une très très belle découverte de la rentrée. Je commence vraiment à penser que ce sont les femmes qui écrivent le mieux sur la boxe. On pense évidemment aux écrits de Joyce Carol Oates, par exemple. Et c'est un livre extrêmement original, divertissant. Moi, déjà, j'ai été vraiment très séduite par le dispositif. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, dans Street Fighter. On suit vraiment chaque chapitre, c'est un combat, et on va comme ça de combat en combat jusqu'au bout du tournoi. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que donc ces jeunes filles qui viennent de toute l'Amérique se retrouvent dans cette salle un peu de seconde zone, un peu pourri, il y a personne dans le public, pas comme ici aujourd'hui. C'est des vieux juges qui vont être chargés de regarder ces matchs. Et pourtant,
pas comme les critiques du masque.
Pas comme les critiques. Non, évidemment. Comment oserais-je faire une telle analogie? Et pourtant, malgré ce décor un peu moribond, un peu vétuste, eh bien ces filles sur le ring, elles jouent leur vie, et vraiment au sens figuré, parce qu'elles sont toutes animées presque d'envie de meurtre, d'une violence complètement folle. Ce qui est assez amusant, il y a énormément de détails. Par exemple, il y en a une qui dit: je suis heureuse que l'arbitre vérifie mes gants avant le combat pour voir s'ils ne sont pas lestés de plomb, parce que je pourrais vraiment tuer mon adversaire. Bon, ça paraît très très violent comme ça, et en même temps c'est assez ludique. Ce sont des très jeunes filles. Il y en a une autre qui porte constamment sa toque en fourrure de raton laveur pour déstabiliser et impressionner ses adversaires. Et malgré cela, bien qu'on soit vraiment dans des combats de boxe, il y a de la sueur, il y a du sang, il y a des coups, on sent vraiment les muscles endoloris, la contraction des abdominaux. Malgré cela, c'est pas du tout un livre écrit avec des gants de boxe. Pardonnez-moi, je ne pouvais pas faire sans cette analogie-là. Et c'est un livre qui est très poétique aussi. Tu le disais, il y a ces espèces de flashs qui nous permettent de rentrer dans la vie de ces filles, dans leur passé, leur traumatisme, leur vie de famille, mais aussi leur futur. Et je trouve que là, on s'élève vraiment au-delà du ring. Ça prend presque l'allure de halo lumineux. D'ailleurs, il y a toute une attention très fine portée à la lumière qui tombe sur le ring. Et on est comme ça dans ces bulles, à voir toute la vie de ces filles condensée en quelques pages seulement, comme si c'était vraiment un point très serré, prêt à frapper. Donc je trouve qu'il y a une vraie prouesse stylistique, narrative dans ce livre. Et en même temps, c'est aussi un très beau portrait de l'adolescence, de ce que c'est qu'être une jeune fille. À un moment, il y a cette phrase: à sa naissance, chaque jeune fille est une boxeuse en puissance. Et en effet, on peut se dire que toutes les jeunes filles ont sans doute grandi avec l'impression d'être jugées par des vieux hommes.
Et sous les projecteurs du TAP de Poitiers, un boxeur en puissance, Arnaud Vivian, est-ce que tu as...
Non, mais c'est vrai qu'il
y a... Tu as aimé combat de filles?
En fait, la boxe est une sorte de compétition à l'intérieur même de la littérature américaine. Et évidemment, tu as parlé de Joyce Carol Oates, mais évidemment, Hemingway, voilà. Donc, commencer, puisque c'est le premier livre de cette femme qui, par ailleurs, est éditrice.
Oui.
C'est Max Winney, qui est un des éditeurs les plus chics d'Amérique. Et effectivement, donc, elle arrive immédiatement sur le ring de la littérature avec un livre sur la boxe, et pas n'importe quelle boxe, la boxe de jeunes femmes. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Il y a effectivement des trouvailles d'écriture. Je vous en donne un tout petit exemple. Il y a une boxeuse qui s'appelle Rachel. Alors, page 59, il est dit que ses jambes ressemblent à une poignée de spaghettis recouvertes de peau, et l'intérieur de son corps a du veau haché. Oui, mais voilà, page 64, Rachel a maintenant l'impression d'être une fine côtelette de veau. Oui, mais voilà, page 77, les jambes en veau haché de Rachel luisent dans la lumière. Alors, où sont passés les spaghettis? Je ne sais pas. C'est évidemment, il y a des trouvailles stylistiques quand même dans ce livre qui sont tout à fait extraordinaires.
Le sang narquois.
Un peu. J'aime bien le veau, mais là, il y en avait beaucoup, quoi.
Philippe?
Moi, j'ai trouvé ce livre absolument magnifique. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'aime énormément l'idée que le sommaire du livre, c'est le programme de la soirée. C'est-à-dire les huitièmes de finale, quatrième...
On a le schéma du tournoi.
On a même le schéma, comme quand vous rentrez dans un... Allez voir un spectacle, vous avez le plan. C'est le livre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'évidemment, on est quand même pris un peu, parce que c'est pas le thème vraiment du livre, par le suspense, qui va gagner, par entre toutes ces jeunes filles.
Tu as un troisième point?
Ce que je trouve absolument formidable dans le livre, d'abord, c'est que c'est un livre en fait qui parle pas du corps, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un livre où on prend des coups, mais ce que l'on entend tout le temps, c'est ce que les jeunes filles ont dans la tête. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort. Et d'ailleurs, je trouve que il y a une analogie qui est très très réussie entre le micro-espace du ring et l'immensité américaine. Parce que je trouve que c'est un livre extraordinaire sur la solitude, Je trouve que ce sont des jeunes filles qui sont seules. Et c'est même un livre, je trouve, très poignant, parce que c'est un livre sur l'échec. Parce qu'en fait, c'est un livre qui dit « Toutes les jeunes filles, à tel âge, elles ont des rêves. Il n'y en a aucune qui va y arriver. » Et ce que j'adore dans ce livre, c'est que par moments, il y a d'un seul coup des écarts où on nous dit « Quand elle mourra à 73 ans, après avoir tenu une épicerie dans le Wyoming, et d'un seul coup, on voit que tout ce qu'elle espérait à 15 ans, ça s'est jamais produit. » Et c'est ça que je trouve extrêmement beau. Il y a plusieurs images qu'on pourrait trouver. Ce ring, c'est une arène, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a eu Raging Ball. Chaque coup, on a l'impression que c'est comme un clou qui est enfoncé presque dans le cercueil, quoi. Je trouve que c'est un livre presque funèbre et que je trouve vraiment absolument magnifique.
Voilà. Patricia.
Alors, je suis d'accord avec plein de choses que vous avez dites. Je serais un petit peu plus partagée. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une prouesse. Tu parlais de la littérature liée à ça, à la boxe. Norman Mailer aussi, Le combat du siècle, Jack London avec Le jeu du ring. Je trouve que ça, c'est des livres qui t'emportent. Moi, il m'a manqué un petit peu quelque chose. Mais enfin, je fais la fine bouche. J'aurais bien été incapable même d'écrire un seul chapitre de ce livre parce que c'est quand même vachement
bien fichu. Parce que tu ne boxes pas.
Parce que je boxe pas, mais tu sais que j'ai très envie. Je pense que je suis beaucoup trop vieille pour m'y mettre, mais c'est quelque chose qui me tenterait.
Mais pas du tout.
Il n'est jamais trop tard, Patricia.
Je trouve que cette fille, ces filles, d'abord, c'est très juste ce que tu disais, Philippe. Elles sont muettes, de toute façon, elles ne peuvent pas se parler. Leurs conversations ne peuvent être qu'imaginaires, puisqu'elles ont des protège-dents. Elles n'ont pas le droit de se parler, et physiquement, elles ne peuvent pas le faire. Donc, on est vraiment dans leur tête et dans ce qui s'y passe. Elles sont incroyablement tenaces. C'est pas pour le fric qu'elles font ça. S'il y a une victoire, c'est plus pour l'honneur et une victoire sur soi que pour l'argent. Les entraînements sont très durs. Elles se tapent des bornes et des bornes et des bornes. Elles viennent de l'autre bout des États-Unis. Elles sont dans des, on imagine que c'est dans des voitures, des vieilles bagnoles. Quand elles dorment pas dans les voitures, elles dorment dans des hôtels qui n'ont quand même rien de luxueux. Et puis alors, sur le corps, là, je suis pas d'accord avec toi, Philippe. Le corps, il est mis à mal. On a des gros plans quand même sur les yeux au beurre noir, les bleus, les surdités, les fractures. Enfin, ça peut aller même jusqu'à la... Bon, il n'y en a aucune qui meurt. Mais enfin, on sait quand même les dangers que l'on court. Mais je dirais simplement que de la même manière qu'elle a été finaliste pour plein de prix, eh ben, il pourrait y avoir un petit quelque chose de plus qui fait que...
Pour toi, elle est en demi-finale.
Voilà, exactement. Mais on attend le prochain.
Combat de filles de Rita Bullwinkle, apparu aux éditions La Croisée dans une traduction d'Hélène Cohen. On continue avec le nouveau roman de Michel Bussy, l'un des écrivains les plus lus en France, roman qui s'intitule « Les ombres du monde » où l'auteur se saisit d'un sujet historique, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Michel Bussy mêle petite et grande histoire, fiction et faits historiques, notamment l'implication de l'État français dans le génocide. Pour ce qui concerne la fiction, c'est l'histoire de Mahé, parti en voyage au Rwanda avec sa mère, son grand-père ancien militaire français et le carnet de sa grand-mère Tutsi, tuée pendant le génocide. La lecture de ce carnet plonge Mahé dans le Rwanda des années 90 et dans l'histoire d'amour de ses grands-parents. Une fois sur place, le grand-père de Mahé est enlevé et pour le retrouver, une enquête pleine de rebondissements, une enquête sur le passé politique du Rwanda et sur le passé familial de Mahé est nécessaire. Philippe.
Alors là, je dirais que nous avons un problème. Parce que, d'abord, parce que Michel Bussy, on l'a dit, c'est un auteur très populaire, très lu. Moi, ce que je dirais pour commencer, c'est que quand on veut s'attaquer à une question aussi grave qu'un génocide comme celui qu'ont connu les Tutsis au Rwanda, faut faire un livre et ce livre, faut pas le rater. Et là, à mon sens, c'est vraiment raté. Et je dis ça parce que quand on a lu les grands livres de Jean Hatzfeld, hein, Dans le nu de la vie, une saison de machette, quand on a lu L'élimination de Ritipan sur le génocide Khmer, on peut pas accepter que, même si le livre se veut l'explication de toute l'implication des forces, et particulièrement des forces politiques françaises dans ce drame, on peut pas se contenter de faire d'abord un livre qui, moi, m'a ennuyé. Je dois dire, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution psychologique des personnages, il n'y a pas d'émotion, donc ça c'est quand même grave. Et moi je vais vous dire une chose un peu personnelle, mais il se trouve que j'ai suivi les procès des génocidaires rwandais à Arusha en Tanzanie. J'étais reporter, je les ai suivis. Et à chaque fois qu'une femme Tutsi rentrait dans le tribunal, la première question que lui posait le président du tribunal, c'était celle-ci. « Madame, pouvez-vous dire au jury pour quelle raison vous êtes encore en vie ?» C'est-à-dire qu'être Tutsi, c'était impensable. Quand on était en vie, c'est qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Tout ça, moi, j'ai pas trouvé une once de ça dans le livre de Michel Bussy. J'ai même à la fin sauté des pages. En fait, je m'en foutais totalement de cette histoire parce que je la trouve écrite sans passion, sans émotion. Voilà.
Arnaud?
Je vais avoir du mal à dire le contraire. Michel Bussy, maintenant, c'est un phénomène un peu récurrent, un écrivain populaire spécialisé dans un genre, en l'occurrence le roman policier, sort de sa zone de confort, comme on dit.
C'est le syndrome Norek.
Voilà, à la rentrée littéraire, exactement. Comme on l'a dit, les livres sur le Rwanda, c'est pas ça qui manque, il y en a de magnifiques, y compris d'ailleurs les livres très populaires et à juste titre de Gaël Faye. Je suis d'accord, moi je n'aime pas beaucoup la manière dont on emploie aujourd'hui trop facilement le mot d'empathie, mais là, il y a un manque d'empathie dans le livre de Michel Bussy qui est totalement stupéfiant. Alors, il s'explique, hein, c'est qu'il a une théorie, lui, ce qu'il veut démontrer, qu'il ne peut pas approuver, parce qu'il n'est pas journaliste, donc il en passe par la fiction pour imposer sa version des faits, à savoir que le Falcon présidentiel qui a déclenché le génocide aurait été abattu par le capitaine Baril, pour ceux qui se souviennent, qui faisait partie de la cellule antiterroriste. Il n'en fait plus partie à ce moment-là, mais Bussy est persuadé. Et donc, il invente une fiction, un personnage, Espérance, qui aurait retrouvé la boîte noire du Falcon. Enfin, tout ça est impossible. Les procès de réparation dont Gaël Faye avait fait un compte-rendu très justement beau, tendre, important dans son dernier livre, ici sont repoussés en 2028 dans une espèce de science-fiction qui est même méprisante. On peut le dire. Et alors, je ne parle pas de l'écriture. Ça commence dès le quatrième de couverture. On dit que ces livres sont traduits dans 30 pays. Alors, je dis aux presses de la Cité, on ne dit pas traduit dans 30 pays, on dit traduit dans le nombre de langues. Hein, on est traduit dans une langue, pas dans un pays. On est vendu dans un pays. Par exemple, l'Astérix est traduit en 120 langues et dialectes. Voilà, là, c'est du français. Une autre phrase, quand même, que j'ai... Mais c'est vraiment... La langue, c'est quand même un tout petit peu important dans notre affaire.
Tu as sorti ton
Bussy
carnet.
Bussy écrit, juste la dernière, « La réalité est toujours le terreau dans le lesquels l'écrivain puise les racines de ses histoires. » Alors,
c'est pas
je vais
la
vous
pire.
Dire, Michel Bussy va essayer de puiser dans du terreau. Tu vas voir, c'est très difficile.
C'est bien vu.
Patricia ?
Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Je vous rassure, ce n'est pas Michel Bussy, c'est la première phrase des bienveillantes de Jonathan Little, qui après déroule un roman de 900 pages où il se met dans la tête d'un SS. Là, évidemment, on prend. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, les garçons, c'est-à-dire que c'est moralement qu'on supporte pas ce livre. Il y a une certaine rigueur historique, probablement. Il paraît qu'il a beaucoup travaillé avec des gens qui s'y sont intéressés, Patrick de Saint-Exupéry notamment, etc. Mais il nous sert, mais une vieille sauce romanesque indigne, avec des ressorts, des émotions, des ficelles, ces fins de chapitre pour que surtout on s'arrête pas là et qu'on continue. Il se regarde écrire, il se sert de la fiction et il ne la sert pas plus qu'il ne sert l'histoire. Ne vous fatiguez pas, ne le lisez pas, ça ne sert strictement à rien.
C'est bien. Et Elisabeth Philippe,
c'est alors bien, qu'ajouter, si ce n'est le coup de grâce, non
Oula.
C'est surtout la maladresse narrative qui est extrêmement gênante, parce qu'on est quand même censé lire dans certains chapitres les extraits du journal d'Espérance. Espérance,
la grand-mère de la jeune fille qui s'appelle Maë, oui.
Écrit son journal à l'imparfait. Donc déjà, c'est totalement incohérent et c'est une façon en fait extrêmement paresseuse et artificielle d'intégrer les données historiques et les données factuelles. En fait, le journal d'Espérance, c'est des fiches Wikipédia qui se succèdent, donc c'est très pénible à lire, ce qui fait que l'écriture est extrêmement scolaire, parfois problématique. Bon, Arnaud a cité quelques phrases, moi il y en a une qui m'a particulièrement plu, c'est donc Espérance et son amant français, soldat, donc au sortir d'une nuit d'amour, il est écrit « Nos deux corps rôtissaient dans la même sueur ». Alors, personnellement, c'est pas la description la plus sensuelle qui m'était donnée de lire.
Michel Bussy et toi n'avez pas la même vision de l'érotisme.
Non, on n'a pas la même vision.
Peut-être avec la fille en veau haché, ça le
avec,
fait.
Voilà, là, bah. On peut mixer tout ça. Non, mais ça, trêve de plaisanterie. Le plus grave pour moi, j'ai lu quelque part au sujet de ce livre qu'il faisait montre d'un romanesque prudent. Alors pour moi, c'est au contraire un romanesque extrêmement casse-gueule. Enfin, je rejoins complètement ce que disait Patricia, c'est-à-dire que sur une telle toile de fond historique, greffer une fiction aussi abracadabrantesque, aussi folle, aussi vulgaire, je trouve que c'est très dangereux.
Et on en a tous, à mon avis, tous les quatre sous le coude, parce qu'on pourrait vous dire des choses bien plus terribles à ce sujet, mais que comme nous sommes sur France Inter, nous ne dirons pas.
Et nous sommes Patricia pudiques. Martin qui le dit.
Ah non, mais moi je suis en colère, je suis furax contre ce bouquin.
Les ombres du monde de Michel Bussy est publié aux presses de la Cité. On continue avec Il pleut sur la parade, premier roman de Lucie-Anne Belgy. La narratrice se prénomme Lucie et son mari Jonas. Elle est de culture catholique, il est de culture juive. « Je pensais, dit Lucie, que notre bébé incarnerait l'harmonie et le calme. Il n'en est rien, Ariel, leur petit garçon de 5 ans, est violent avec les autres enfants depuis qu'il est à la crèche. Cette violence de plus en plus incontrôlable isole les parents et les conduit à consulter Françoise Bouchèze, pédopsychiatre qui, je cite, « a des airs de maison de campagne et d'aïeul qu'on appelle « bonne maman ». Le comportement d'Ariel va être le révélateur des traumas individuels et collectifs que Jonas et Lucie ont vécu ou qui leur ont été transmis. Les thèmes assez lourds de la mixité religieuse et de la transmission sont traités avec le décalage comique des personnages Lucie et Jonas. Patricia.
Moi, c'est elle qui m'a beaucoup intéressée. Alors, j'espère que, Arnaud, tu vas pas me taper dessus parce que je suis pas sûre qu'on sera vraiment du même avis.
J'y veille.
Moi, j'ai aimé son regard, j'ai aimé ses doutes. J'ai aimé la façon dont elle parle de son petit garçon Ariel. Ma curieuse presqu'île, dit-elle, mon prolongement et mon étranger. J'ai aimé la façon dont elle aime son mari, ce garçon avec qui commence à se dégarnir un peu, qui a des lunettes qu'il faut pas, mais qui est quelqu'un de doux et de soucieux. La façon dont elle parle du grand-père de Jonas, de sa famille à lui, de sa famille à elle, la façon qu'elle a d'aborder la culture juive. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ça commence par une citation d'un auteur que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. Il y a longtemps que je l'ai plus lu, mais d'Isaac Bashevis Singer dans Le Golem. Et puis, quand elle cite après Jean-Patrick Manchette, qui est lu par une femme sur une plage, je trouve que quelqu'un qui prend ces deux sources d'inspiration là ne peut être que bien. Que moi, j'ai énormément aimé. Peut-être qu'il y a des choses un peu tirées par les cheveux après le fait qu'elle se mette à aller à la messe, etc., qu'elle s'intéresse au catholicisme. Oui, je sens que sur ma droite, elle va s'en prendre plein la gueule, mais
tirée c'est quand même par une les femme cheveux.
Qui arrive, quand elle prend cette image où elle dit qu'elle est comme un radeau sur un fleuve et qu'elle aimerait arriver un peu plus loin, peut-être à la mer, les bras ouverts, et qui n'y arrive pas parce qu'il y a les obstacles de la vie, je trouve qu'elle le raconte d'une manière extrêmement juste. Moi, j'ai trouvé que ce livre sonnait bien.
Elisabeth, comment ça sonne pour toi ?
Ça sonnait bien, et puis je m'en faisais un peu une fête, et il a plu sur ma parade aussi, puisque au départ, je me suis dit « chouette ».
Ce qui est le titre du livre, je le rappelle.
Ouais. Ce n'était pas complètement gratuit. Je me suis dit, chouette, on va avoir un livre un peu du Philip Roth à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est le point de vue d'une Chixée, donc ces femmes goyes sur lesquelles fantasment tous les héros de Roth, notamment Portnoy. Et d'autant que le prologue donnait un ton assez radical et tonitruant. À la fin, elle dit, je suis l'Holocauste qui transforme les spermatozoïdes juifs en enfants goyes. Je me dis, je vais avoir droit à une comédie grinçante, irrévérencieuse. Et en fait, je me retrouve avec une version éducation positive de Il faut qu'on parle de Kevin, vous savez, le roman de Lionel Shriver sur une mère dépassée par la violence de son fils. Et c'est vrai que au bout d'un moment, toute cette comédie sur ce couple mal assorti, ou en tout cas pour lequel c'est compliqué, avec ce personnage de Jonas que j'ai trouvé très attachant, très drôle. Par exemple, il ne conduit pas de peur d'écraser un vieux, ou pire, un chat. Bon,
ça t'a parlé.
Ça m'a parlé, ça m'a fait rire. De la même manière, quand il y a le Moël qui vient pour pratiquer la circoncision, ce Moël se vante d'avoir fait tous les fils de Gad Elmaleh. Bon, tout ça, je trouvais ça assez drôle. Mais là où je trouve que ça s'effiloche et ça perd vraiment d'intérêt, c'est quand ça se concentre uniquement sur la violence du fils Ariel. Ça donne au départ des scènes assez amusantes. Et puis, à force d'être répétées, ces scènes ne sont plus du tout amusantes. On a vraiment envie de dire à Ariel, bon, s'il te plaît, tu vas dans ta chambre et puis tu nous laisses tranquille.
Le môme, il ira pas dans sa chambre. C'est une femme qui souffre, c'est une...
Oui, mais ce que j'ai pas du tout trouvé réussi, c'est quand elle se met à chercher les origines de cette violence. Et là, je trouve que ça part dans tous les sens, aussi bien cette nounou violente que ensuite elle son retour au catholicisme. Je comprends pas. Enfin, il y a plein d'hypothèses et ça devient vraiment trop répétitif et
elle
perd de vue.
Elle tâtonne.
Oui, mais on n'a pas envie de tâtonner forcément. Nous, quand on lit, on est... Non, mais surtout que le début était prometteur. Donc c'est dommage qu'ensuite ça se délite complètement.
Arnaud,
aïe aïe aïe.
pas encore parlé.
Je t'entends penser. Je t'aime tellement que j'entends ce qui se passe dans ta tête.
Non, mais... Comment dire, c'est un premier roman, c'est toujours très embêtant. Mais personnellement, ça m'a fait penser à la célèbre Algarade de Sartre sur François Mauriac, grand écrivain catholique, qui disait Sartre envoyait à Mauriac Dieu n'est pas un artiste et vous non plus, monsieur Mauriac. C'est exactement ce qu'on a envie de dire à la fin de ce livre. Parce que qu'est-ce que voulait dire Sartre? C'est que les personnages de Mauriac n'étaient pas libres. Et là aussi, je vois deux personnages. Ils ne sont pas libres. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des personnages en devenir. Alors, le titre est très beau. Il pleut sur la parade. Le meilleur titre de la rentrée littéraire, de loin, ça m'a fait penser à plein de choses. Un disque de Tom Waits. Enfin, je voyais, voilà. Et en fait, c'est totalement mensonger. Parce qu'on pense qu'on va lire quelque chose de triste. Il pleut sur la parade, ça va. On voit bien le...
Mais
en fait,
joyeux.
J'ai eu l'impression de lire un sketch de Blanche Gardin sur un enfant HPI.
Ah non,
quoi.
Oh bah,
si,
bah,
c'est moi, c'est ce que j'aurais aimé lire. C'est ce que j'aurais aimé lire. Toi, tu t'attendais à un livre triste, moi, à une comédie.
Voilà, et donc,
c'est raté.
Et donc le gamin, donc, il a 2 ans, donc son doudou, c'est un exemplaire de Télérama.
Ça, c'est drôle.
Avec Barbara en couverture, à 2 ans. Donc, soit c'est un sketch, c'est marrant.
Non, mais ça, c'est drôle.
Oui, mais ça te fait rire.
Oui.
Mais en même temps, tout ça, on ne sait pas ce que ça raconte, à part ce problème que moi, je trouve très grave, qui renvoie à des notions que je n'aime pas, qui sont celles du communautarisme et de l'identitarisme. Je pense que nous avons des identités multiples, qu'on n'est pas réduit à soi. Là, ce livre réduit ces personnages à eux-mêmes. Voilà.
Philippe ?
Bah, c'est toujours très, très, très bien de parler le dernier parce que c'est, on apprend des tas de choses. C'est marrant parce que moi, je vois pas du tout comme Elisabeth. C'est très amusant. Moi, ce livre, je trouve que c'est un livre, il y a 2 livres dans ce livre. Il y a un livre qui est l'histoire de la relation entre 2 personnes qui n'auraient pas la même religion. Et là, je trouve que le livre, il est vraiment faiblard, à mon sens. D'ailleurs, je trouve que tout ce qui est, quand on s'approche du judaïsme, on est vraiment dans le folklore. Il y a rien de la subtilité, je trouve que c'est très faible. Quand son retour au catholicisme, c'est niaiseux, comme on dit au Québec. Je trouve que, alors il y a des trucs que je trouve assez drôles quand elle parle du goylem, ce mélange de golem et de goy. J'aime bien le prêtre, tendance compostelle sournois. Là, j'ai bien vu le personnage. Ça, il m'a fait peur. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un 2e livre. Et alors moi, par contre, j'ai trouvé qu'il était assez touchant. C'est le livre sur cet enfant. J'ai trouvé que la façon dont ses parents se retrouvent avec un enfant qui est violent, le livre montre bien comment, finalement, on se retrouve de plus en plus isolé de la société. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus vous voir parce que vous leur faites peur.
Parce que votre gosse est insupportable.
Parce que le gosse est insupportable.
Et qu'il vous raconte.
Et je trouve que c'est quand même très prenant. Ça, vraiment, je trouve que ça dépasse le reste du livre. Et je trouve que d'ailleurs, s'il y avait...
Le désarroi de la mère aussi.
S'il y avait une morale à tirer, me semble-t-il, ce serait de dire ça. Ce serait de dire qu'en fait, entre 2 personnes qui n'ont pas la même religion, il y a moins d'écart qu'entre des gens qui vont bien, disons, et puis quelqu'un qui est dans la souffrance psychique. Là, on est vraiment face à une altérité qui est extrêmement difficile à comprendre et à approcher.
« Il pleut sur la parade » de Lucie-Anne Belgy est publié chez Gallimard. Nous sommes en 2025, pour quelques jours encore, 2025, année impaire, donc un nouvel Astérix apparu à l'automne. Les Irréductibles Gaulois, inventés par René Goscinny et Albert Uderzo il y a 66 ans, reviennent sous la plume de Fab Caro, scénariste de la série pour la 2e fois, et sous le trait de Didier Conrad, qui dessine Astérix depuis 12 ans. Ce nouvel album s'intitule Astérix en Lusitanie, la Lusitanie étant le futur Portugal. Mavubes, M-A-V-U-B-E-S, y est un petit producteur d'une sauce à base de poisson, dont César raffole. Accusé à tort d'avoir tenté d'empoisonner l'empereur romain avec sa fameuse sauce, Mavubes est promis à la fosse aux lions. Astérix et Obélix vont déjouer le complot dont il est victime, complot ourdi par le gouverneur Plubalus. Au-delà du succès qui fut annoncé par Hachette avant même la sortie du livre, quel est votre regard critique sur les aventures 2025 de ces personnages si gaulois et connus dans le monde entier, Elisabethus?
Alors, c'était un peu la déception pour moi. Non, je me permets ça puisque l'accent portugais, c'est à peu près le seul ressort comique de l'album. Alors même que Fab Caro a choisi, et a raison, je pense, de faire perdre son accent caricatural à Baba, le pirate noir, ça intervient dans une des cases. Non, je trouvais que c'était un album un peu mou du genou, l'intrigue a peu d'intérêt. L'humour, il est relativement convenu, alors que Fab Caro, c'est quand même quelqu'un qu'on adore pour son immense fantaisie, sa grande inventivité. Bon, là, je sais qu'il doit se couler dans le moule d'Astérix et Obélix, mais je trouve qu'il le fait de façon un peu paresseuse, à coup de blagues sur la morue et la saudade, et puis il y a à peu près que ça, en fait. Il y a quand même quelques jeux de mots, moi, qui m'ont fait rire, comme il rencontre Astérix et Obélix en Lusitanie, il tombe sur deux touristes gaulois, et notamment une certaine Spikrine, qui est coiffeuse, et son salon de coiffure à Lutèce s'appelle Tresse à la douzaine. Bon, moi, ça m'a fait rire, ça suffit, comme quoi je suis pas bégueule. Non, ce qui est plus embêtant pour moi, c'est le paratexte, donc tout le discours qui entoure la bande dessinée. Déjà, c'est une bande dessinée qui veut porter un contenu un peu anticapitaliste, puisque ce sont tous les ultra-riches qui se retrouvent et puis qui fomentent un complot pour faire tomber César. Il y a même une case qui ressemble à la liberté guidant le peuple de Delacroix. Mais le discours marketing autour de l'album, tu l'as dit, Rebecca, où on nous sert déjà les millions d'exemplaires auxquels sont tirés les albums d'Obélix en général, les millions de traductions en différentes langues et pas dans différents pays, j'ai bien retenu ce qu'a dit Arnaud, les tirages...
Sous-entendu, si vous ne l'achetez pas, vous allez être
oui,
bien seul.
Oui, donc là, c'est vraiment la logique des chiffres, et donc je trouve qu'il y a un paradoxe à ce niveau-là. Et puis pour moi, ce qui est le plus embêtant, c'est un livre, donc tu l'as dit, c'est Hachette, et de voir des auteurs qui écrivent Astérix et Obélix, qui doivent donner des interviews au JD News, qui en fait bénéficient de tout l'écosystème Bolloré, exactement comme un livre de Jordan Bardella, ça me fait un peu de peine.
Arnaud.
Moi, j'ai trouvé très bien ce Astérix. Je pense que Fab Caro fait le job. Hein. Il y a eu une longue période assez incertaine quand Uderzo faisait les scénarios lui-même, etc. On revient d'assez loin, là, pour le coup. Hein. La première chose que je trouve très bien, c'est le concept de Lusitanie. Moi, j'ai posé la question autour de moi. J'ai dit, tu sais, je suis en train de lire Astérix en Lusitanie. Tu vois où c'est? Et là, j'ai vu des gens très cultivés, hein. La Lituanie, non, la Lusitanie. Et donc, rien que ça, il y a un côté question du jeu de 1000 euros. C'est quoi? C'est où la Lusitanie? Donc, ok. Donc, c'est le Portugal, hein. Je mets.
Vous le saurez si vous tentez le super manteau.
Rien que cette idée-là est très belle. On connaît, c'est le 25e voyage d'Astérix et Obélix. On voit bien.
C'est leur 41e aventure. Hein.
Voilà. Oui, mais le 25e voyage, parce que la tradition du voyage, Astérix en Corse, Astérix en Helvétie. Vous voyez où c'est l'Helvétie, hein, à peu près. Donc, non, mais déjà, c'était en 1970. Et je pense que Helvétie faisait exactement le même chose que Lusitanie. Les gens se disent, Helvétie, je suis pas trop sûr. Donc, il y a une tradition. Et on voyait bien que Goscinny travaillait à, entre guillemets, ce que j'appellerais la construction européenne. Là, ce qui est assez beau, c'est que donc l'Empire romain, puisque vous savez quand même que ce village de Gaulois résiste tout seul contre tout l'Empire romain, c'est quasiment plus rien aujourd'hui, il a été remplacé par le marché. Alors, bon, ça paraît une évidence, mais je crois que c'est bien que tous ces millions de personnes dans autant de pays qui sont représentés par des langues et des dialectes, découvrent une réalité simple, qu'il faut privilégier le circuit court, que nous sommes en train de mourir d'une mondialisation malade. Voilà, je veux dire, chose très simple et dite simplement dans cet album.
C'est quand même pas l'extrême-gauche, hein. Si tu veux, sur le plan politique, on n'est pas dans l'extrême-gauche.
Non, mais quand même, donc ils se réunissent à Davos, qu'ils ont eu l'intelligence de faire, non pas en Helvétie, mais au Portugal, ce qui est quand même plus chouette, hein, à mon avis, mais bon, ça c'est les grands patrons qui décident là où ils se réunissent. Mais donc, juste une chose qui m'a choqué, c'est qu'IDFX est devenu tout petit. Je ne comprends pas pourquoi.
Ouais, il est quasi
inexistant. Une espèce de réduction là, terrible d'IDFX qui me choque.
Le chou. Ouais.
Être chagriné par la disparition d'un chien, ça fait au moins un point commun entre Arnaud Vivian et Elisabeth Philippe.
Mais c'est vrai, c'est très juste. Il est vrai qu'il est incroyablement petit, ce chien. C'est très bizarre. On connaît la formule de Victor Hugo.
Ça fait longtemps.
Le calembour, c'est la fiente de l'esprit. Alors là, on a un vol de pigeons. Hein, parce que des calembours, il y en a vraiment. Mais alors, il y en a des bons. Hein. Moi, c'est pas celui.
C'est Astérix.
Celui qui m'a plu, moi, c'est le camping-char. C'est des gens qui vont. Parce que déjà, le camping-car, sans offense, il y a des carabiniers dans la salle, mais le camping-car, c'est déjà drôle. Et le camping-char, c'est encore plus drôle. Mais cela dit, c'est vrai que je trouve quand même que c'est vraiment. L'intrigue est très faiblarde. Mais en même temps, il faut dire ce qu'il y a, quoi. Ça coûte 10,90€. Donc on en a pour son argent, mais pas plus. C'est ça, faut le prendre comme ça, quoi. Et en même temps, vous savez qu'il y a une version à 40€, et il y a une version à 200€, le genre menhir plaqué or. Et là, je sais pas qui l'achète, mais juste une chose quand même. Moi, j'ai jamais vu, je crois, hein, j'ai jamais vu un dossier de presse envoyé aux journalistes aussi luxueux. Ça, alors vraiment, c'était, sauf quand on vous envoie des montres et des, mais ça, c'est pas nous.
Il y a du budget, c'est incontestable.
Oui. Non, mais ça, c'est quand même assez surprenant. Mais c'est vrai, bon, que moi, je dirais que cet album d'Astérix, c'est comme un peu le Beaujolais nouveau. C'est-à-dire, on sait que ça va pas être terrible, mais tout le monde veut le goûter. Puis après, on se dit, ça, c'est fait. Voilà.
Bah oui, mais parce que. Mais Fichtre, ça, moi, je fais pas la fine gueule, ça tape dans les souvenirs. Astérix, c'est un peu la famille. Et moi, je dois dire que rien que de voir les noms de Goscinny et d'Uderzo tout en haut sur un album tout frais qui vient de sortir, moi, je suis désolée, ça m'émeut. Alors, bien sûr, c'est pas le grand soir, il y a pas de détonateur, il y a pas de trouvaille inoubliable. C'est assez sage, il y a pas de message, mais je trouve ça plutôt bien fichu. Moi, j'ai aimé les dessins. Je trouve que les dessins sont très bons.
De Didier Conrad, donc. Astérix en Lusitanie, donc désormais tout le monde s'y tuera, avec Fab Caro au scénario et Didier Conrad au dessin, apparu aux éditions Albert René. On termine avec Perpétuité, quatrième roman de l'écrivain et dramaturge Guillaume Poix. C'est une fiction documentée qui se déroule dans l'enceinte d'une maison d'arrêt du sud de la France. Unité de lieu et unité de temps, puisque le roman se déroule entre 19h et 6h du matin, le temps d'une nuit donc. Heure par heure, le récit adopte le point de vue de 11 personnages, de la directrice de l'établissement au portier, en passant par un responsable syndical, 11 hommes et femmes chargés de la surveillance de 1000 détenus la nuit, quand gardiens et gardiennes sont une centaine pendant la journée. Le roman raconte la routine de l'univers carcéral entre acronymes, gestes, sons. La vie de chacun se révèle notamment lors d'une scène de repas quand surviennent plusieurs incidents, dont certains dramatiques. Pour écrire cette fiction, Guillaume Poix est parti d'une matière documentaire puisqu'il a passé plusieurs séjours en immersion dans un centre pénitentiaire où il a pu mener des entretiens avec le personnel. Arnaud.
Un bon livre sur la prison, ça court pas les rues, hein.
Très drôle.
Ça manque un peu de yaourt, mais sinon, il est bien ce livre sur la prison. Non, sérieusement, c'est un livre qui adopte le point de vue de ceux qui ont perpétuité, puisque leur travail, c'est d'être et de vivre aussi en prison, puisque il y a toute cette question très belle, très finement examinée, observée des logements de fonction, hein, puisque la directrice, par exemple, elle.
Oui, là je précise que tu parles parce que c'est un livre sur les surveillants.
Sur les surveillants, voilà. C'est ça. La littérature carcérale, nous la connaissons. En général, elle est écrite par des prisonniers. Là, l'auteur a adopté et il a travaillé. On voit qu'il a passé du temps, effectivement, qu'il
plus
a
de 20 jours.
Voilà. Plus de 20 jours, certainement. Et donc, lui, il a été avec les surveillants. Mais évidemment, il est question aussi
des détenus, bien sûr.
Des détenus, évidemment. Et c'est cette relation, d'ailleurs, de surveillance, surtout, qui est là. Hein. Et il dit, ce ne sont pas des gardiens de prison, ce sont des surveillants. Et ils sont bien là pour surveiller.
Ce qui induit d'ailleurs...
Il y a une star qui arrive dans la prison. Alors, vous voyez, vous imaginez, parce que là, on voit ce que c'est par rapport à la direction de soudainement recevoir dans son établissement une star. Et c'est très intéressant parce que là, psychologiquement, c'est très bien décrit, d'autant que cette star, elle la connaît, elle l'a déjà vue dans une autre prison.
La star en question étant un serial killer.
Et un serial killer,
oui, c'est pas NS.
Alors,
hein.
Parce que Guillaume Poix est dramaturge et il est très fort pour construire des scènes des dialogues, des monologues intérieurs. On voit que le théâtre est là, présent dans l'écriture de son livre, qui ressemble beaucoup dans sa construction à une série télévisée. Hein. On pourrait imaginer ça, à mon avis, en série, avec la vie de plusieurs personnages. Hein. C'est un livre choral, mais uniquement sur ces personnes qui travaillent du côté de ce qu'on appelle la pénitentiaire. Franchement, je n'en avais pas lu de ce point de vue-là, et je trouve que celui-ci est parfaitement instructif. Ça se lit, ça se dévore. Là. Pour le coup, c'est mon livre préféré de...
Du programme.
Oui, du programme.
Merci de ton enthousiasme. Tu parlais de surveillance, c'est aussi une relation qui induit de la culpabilité, qui est un sentiment qui traverse beaucoup des surveillants, des personnages de ce roman. Elisabeth, alors on parle du sujet, mais qu'est-ce qu'il en est de l'écriture de Guillaume Poix pour traiter ce sujet ?
L'écriture, elle est très, sensorielle, enfin, elle est très par onomatopée aussi, très directe, très rapide, très vive.
Il y a beaucoup de bruit.
Beaucoup de bruit, des claques, des pas, enfin, les portes qui se ferment, le bruit des menottes, le bruit des pas, de leurs chaussures, enfin, dans les coursives. On est vraiment en immersion avec ces surveillants, on fait la ronde avec eux, on passe de cellule en cellule, on mange avec eux, on est vraiment au plus près d'eux, même dans les, on voit à quel point cette fonction les contamine presque jusque dans leur peau, puisque ça s'ouvre par l'arrivée du chef des surveillants, Pierre, qui a de l'eczéma. Donc il y a quelque chose de très sensible dans cette écriture. Tu l'as dit, il y a quelque chose de théâtral aussi. Guillaume Poix vient du théâtre et on est vraiment dans l'unité de lieu, d'action et de temps. Tout va se passer en une nuit. Donc c'est un voyage au bout d'une nuit en prison et qui allie à la fois une précision documentaire dans l'écriture, parce que je parlais des chaussures, mais parce qu'il donne exactement la marque de chaussures, le modèle, et c'est pareil pour tout. Et également dans un texte qui a une vraie ambition romanesque, parce qu'il y a un suspense. Vous avez parlé du détenu médiatique qui arrive. On sait qu'un drame va se jouer. On se demande qui est coupable. Mais ce qui m'a énormément intéressée, déjà, c'est le côté très panoptique, finalement, de ce roman, parce qu'on voit tout. On voit tout de l'intérieur de la prison et on voit tout des vies intime et intérieur de ces personnages. La façon dont cette fonction traverse les portes de la prison, les dépasse, les franchit pour venir s'infiltrer dans leur vie de famille et parfois de façon extrêmement tragique. Et encore une fois, ce que je trouve très très bien montré sans que ce soit démonstratif, c'est la porosité entre les surveillants et les détenus, ouais, qui partagent finalement la même condition.
Le même air vicié,
qui sont victimes des mêmes baisses de coûts, de la même paupérisation finalement de l'institution, habitée par la même violence au bout d'un moment, parce qu'on voit aussi que la violence, elle peut être des deux côtés. Et je trouve qu'il n'y a jamais de jugement de la part de Guillaume Poix. Lui aussi, il est au-dessus de cette prison pour nous en montrer tous les aspects et nous montrer à quel point tout peut exploser à tout moment.
Patricia.
Et ces gens qui ne seront jamais que des matons, hein, dans le regard d'autrui, c'est-à-dire des marginaux, parce que ce qu'ils montrent très très bien, c'est que la tôle, ben, forcément, ça pulvérise, ça fracasse. Ça sert pas forcément, je dis pas que ça sert pas à grand chose, mais ça n'est sûrement pas en tout cas ce à quoi on croit, et que c'est un cercle vicieux et qu'effectivement ils s'en prennent à perpète. Et moi je suis allée regarder sur internet, si vous voulez devenir surveillant pénitentiaire, d'abord c'est sur concours, je crois que c'est un concours assez difficile, au début vous gagnez moins de 2000 euros et en fin de carrière un tout petit peu plus de 3000, et si vous voulez changer de boulot en cours de route, ben, vous pouvez être convoyeur de fond ou garde du corps. Voilà le destin de ces gens qui doivent, en plus, quand il y a un incendie la nuit, c'est eux qui arrivent avant les pompiers puisqu'ils sont là, et quand il y a un pendu à dépendre, c'est eux qui sont là aussi.
Philippe, pour clore cette tribune sur
Perpétuité. Moi, j'ai souffert avec ce livre. Non pas sur le projet, que je trouve tout à fait remarquable, de décrire la quotidienneté, la nuit de ces surveillants, il faut pas dire gardiens, les concierges sont des gardiens et les gardiens sont des surveillants. Ça, je comprends, c'est très bien, c'est tout à fait... Mais en revanche, j'ai trouvé que... J'y ai vu comme une espèce d'installation, comme une performance d'auteur. J'ai trouvé que là, il y avait vraiment... On sent que c'est un homme de théâtre. Je pense même que, d'ailleurs, ce livre resserré et monté serait une très bonne pièce de théâtre. Mais là, j'ai trouvé que c'était, on n'en finissait pas, quoi. Alors, je comprends très bien que, pour comprendre la difficulté de vivre une longue peine, et c'est vrai, vous l'avez dit, et c'est vrai, les surveillants sont aussi en prison, comme les détenus, il faut en passer probablement par quelque chose qui relève de la répétition, de l'ennui, cette douleur constante, quoi. Mais moi, j'ai vraiment trop souffert. C'est-à-dire, franchement, j'ai eu hâte d'en sortir, parce que...
Mais c'est peut-être là que le livre est réussi, si tu as souffert.
Non, je pense pas. Je, je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai lu beaucoup, il y a quand même, mis à part celui que tout le monde a en tête, hélas, j'ai lu beaucoup de bons livres sur la prison, et c'est pas vrai. Je pense que...
Et tu avais envie d'y être.
C'est pas, et j'avais extrêmement envie d'y être, bien sûr. Et, comme tout le monde, d'ailleurs, j'imagine. Non, voilà. Non, pour moi, je trouve que quand même, c'est un livre, quand même, assez pénible à lire, quoi. Voilà.
Perpétuité de Guillaume Poix est publié chez Vertical. C'est l'heure de vos coups de cœur ou recommandations pour Noël, peut-être. Philippe, tu avais la parole, tu vas la garder. Voilà. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi un livre qui... Alors, le nom est un peu compliqué, parce que ça s'appelle 22 Masbury Road. Ça s'écrit M-A-P-E, comme une map, S-B-U-R-Y, Masbury Road.
22, donc.
22, Masbury Road, absolument. C'est de Rachel Coquerel, c'est publié au Quai Voltaire. Je trouve que c'est un livre absolument passionnant, parce que ça raconte, en gros, la tentative de trouver, pour les Juifs de Russie, un lieu d'ancrage. Et on passe, dans ce livre, à la fois des congrès de début du sionisme à Bâle, mais on passe en Ouganda, on se retrouve au Texas, on se retrouve à New York, on se retrouve à Londres, et on croise tout le théâtre new-yorkais, le Blitz londonien, Roosevelt, Hemingway. C'est absolument formidable. Et ce qui était formidable dans ce livre, parce que c'est très émouvant, ça raconte la vie d'une famille sur plusieurs générations, c'est que le livre est uniquement écrit, constitué de coupures de journaux et de coupures de journaux intimes, de lettres, coupures de journaux et de coupures de presse. Et c'est formidable. Ça, c'est vraiment une réussite et c'est passionnant. Voilà.
22 Masbury Road de Rachel Coquerel, et c'est chez...
Quai Voltaire.
Elisabeth.
Mon coup de cœur, c'est La Sirène d'Hollywood. Ce sont les mémoires d'Esther Williams, traduits par Charles Villalon et parus chez Séguier. Alors, Esther Williams, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'était une championne de natation qui est morte il y a quelques années et qui était devenue...
C'est étrange que tu prennes cet exemple de la natation.
C'est très bizarre.
Ça te plaît peut-être.
Donc, une très grande championne de natation, devenue star de cinéma dans les années 50 et célèbre pour ses apparitions en maillot de bain dans des ballets aquatiques. Et finalement, quand on évolue parmi les requins d'Hollywood, eh bien, mieux vaut savoir nager. Et on voit que ça a bien servi à Esther Williams, qui a un sacré tempérament, qui ne se laisse pas faire. On la voit tenir tête à Louis Mayer, le patron des studios MGM. Elle ne se laisse pas faire non plus par ses partenaires masculins qui sont souvent plus petits qu'elle, c'est assez drôle. Et surtout, elle fait preuve de la même audace et de la même franchise dans ses mémoires qui regorgent d'anecdotes souvent croustillantes ou amusantes. Par exemple, elle parle de Johnny Weissmuller, ce grand acteur aussi nageur qui aimait interprète de Tarzan, avec qui elle a fait des shows aquatiques et qui, manifestement, aimait beaucoup exhiber son anatomie avantageuse. Elle évoque aussi, à un moment, elle est vendeuse pour gagner de l'argent, et là, elle doit présenter des vêtements. Il y a Marlène Dietrich qui l'attend complètement nue dans la cabine d'essayage. Elle parle également de Gene Kelly, qui a été son partenaire, qui était manifestement odieux. Donc, il y a plein d'anecdotes. C'est très, très drôle, c'est très franc, et vraiment, on y plonge avec un pur délice. Un pur bonheur.
La Sirène d'Hollywood d'Esther Williams, c'est chez Séguier. Je crois que tu as choisi aussi des mémoires, Patricia.
Oui, vous connaissez tous Margaret Atwood, hein, la servante écarlate. Eh bien, elle se raconte dans un livre intitulé « Le livre des vies, mémoires écarlates ». C'est publié chez Robert Laffont. On y découvre tout plein de choses, dont les coulisses de l'écriture. Elle parle pas mal de politique et d'un pays qui est assez voisin du Canada et dans lequel il se passe des choses pas toujours très recommandables. Ça se lit absolument comme un roman, parce que c'est une vieille dame maintenant, hein. Elle a presque 90 ans, je la vieillis un peu, mais c'est tout un matériau d'expérience, des passions, des convictions, un franc-parler. C'est piquant comme un hiver canadien.
Elle l'a dit. Arnaud, pour terminer.
J'ai choisi un livre sur Pasolini, « Mourir pour les idées » de Roberto Carnero. Tout cherche midi. C'est le 50e anniversaire de la mort de Pasolini, qui a été assassiné sur une plage près de Rome le 2 novembre 1975. On est en train de s'apercevoir que c'est l'un des plus grands intellectuels et aussi artistes de la deuxième moitié du 20e siècle, dont on ne finit pas de découvrir la pensée complexe. Roberto Carnero, qui est ici très bien traduit, est un universitaire italien. Il fait un livre très didactique, hein, pas du tout d'ailleurs radical sur Pasolini. En revanche, les 60 dernières pages sont entièrement consacrées à l'assassinat, dont Roberto Carnero dit que c'est la mort de Pasolini est l'un des plus grands mystères italiens, car on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et il y a toute l'histoire avec le roman Pétrole inachevé et son chapitre 27 qui a disparu. Il faut lire ça, c'est bien, et toute la pensée, parce qu'on parle beaucoup là de Pasolini, je le vois cité sur les réseaux sociaux avec des citations un peu trop manquer tout le temps. Et si vous voulez savoir ce que Pasolini appelait le fascisme, il faut lire ce livre qui est au Cherche-Midi.
Pasolini, Mourir pour des idées, de Roberto Carnero. Arnaud Vivian, Patricia Martin, Philippe Trétiac, Elisabeth Philippe, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque depuis la scène du TAP à Poitiers. Et je vous rappelle que vous pouvez voter pour élire votre film français et votre film étranger de l'année en envoyant vos choix à l'adresse lemasqueetlaplume@radiofrance.com. Stéphane Le Guénèque réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Christophe Michou, Sébastien Huel, Charles Bouticourt, Thomas Robine, Patrick Beaulieu et Benoît Jégou aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec l'aide de Zora Desgouttes. Ma bande et moi vous retrouvons la semaine prochaine pour des enthousiasmes ou des désaccords, une liberté critique dans tous les cas et sur France Inter, évidemment.